France Culture.
Je ne résiste pas au... j'allais dire au plaisir, je ne sais pas si je veux dire ça comme ça. Mais au moins, je trouve intéressant de citer Gorbatchev. De citer Gorbatchev par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui. Il disait, à Malte, il disait « J'aurais aimé pouvoir dire que la guerre froide a fini. »
Daniel Brunel, décembre 1989. «
Cette période a laissé de nombreuses empreintes sur les approches de la politique extérieure de certains États. Les outils forgés par cette époque existent toujours. » En effet, on est en train de rompre avec le passé, mais ce sera un processus difficile. Il y a une chance immense s'est présentée, mais il existe des forces qui voudraient que l'Europe et le monde soient refaits sur la base des mécanismes enfantés de la guerre froide. Je pense que même si la guerre froide a prouvé quelque chose, si elle a prouvé quelque chose, c'est que miser sur la force et sur la confrontation n'est pas justifié.
Les voix du PCF, archives sonores du communisme français. Un documentaire d'Anne Toscan-Judès, réalisé par Anne Fleury. Dernière bobine, le parti face à la chute du Bloc de l'Est. Marie-Georges Buffet, vous avez été secrétaire nationale du Parti communiste français de 2001 à 2010 et membre du comité central depuis 1987. Vous avez donc connu l'époque des réunions enregistrées, puisqu'elles le sont jusqu'en 1994. Est-ce que vous gardez des souvenirs de ces enregistrements ?
Non, parce que c'était pas un débat entre nous. Je ne suis même pas sûre que nous étions tous ou toutes au courant que nous étions enregistrés. C'était pas quelque chose dont on parlait. J'ai même appris qu'on arrêtait ces enregistrements en 1994. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est lié au fait que en 1993, on ouvre les archives du Parti communiste aux chercheurs, aux étudiants, alors avec l'accord, il fallait que le Parti communiste donne son accord. Alors est-ce qu'il y a eu crainte de que les enregistrements tombent entre des mains, etc. Mais je peux pas être sûre de mon explication.
C'est vrai qu'il y a une simultanéité entre ces deux dates. Donc en 1993, le Parti décide d'ouvrir ses archives et de les rendre accessibles. Vous avez joué un rôle important dans ce processus, de même que Françoise Lazare, dont il faut évoquer l'action. Comment est-ce que ce processus s'est mis en place ?
D'abord, il faut rendre hommage avant tout à Françoise Lazare, parce que c'est elle qui ouvre les archives, on appelait ça les archives du communisme français, en 1993. Et puis, on conserve ces archives de façon militante, en fait. C'est des militants et des militantes qui s'en occupent. Et plus ça va, plus on pense que c'est pas suffisant. Que si on veut vraiment qu'il y ait un travail sur ce qu'a été l'histoire du Parti communiste français, ces 80 années, il faut qu'on aille vers la donation de ces archives aux archives publiques. Et c'est ce qui va être fait en 2003. Ça a pris quelques années. Mais nous avons été le premier parti à le faire, je crois.
Alors Raymond et ensuite Jacques Rally.
Face à l'ampleur des événements
Raymond Jeanne,
dans les pays socialistes,
15 décembre 1989,
qui est martelé par l'ensemble des hommes politiques et des médias, et à l'intensité de la campagne de dénigrement dont le parti est l'objet en général, la direction du parti et Georges en particulier, s'il y a un mot qui me semble tout à fait déterminant, c'est bien celui de lucidité. Lucidité et effort pour comprendre ce qui se déroule dans ces pays en repérant bien ce que recèle ce mouvement de potentialité pour le renouveau du socialisme avec notre affirmation de soutien à la perestroïka et ce qu'il recèle aussi de risques réels encourus au travers des affrontements aigus pour mettre en œuvre ces potentialités dans chacun de ces pays. Lucidité aussi sur le sens des attaques qui sont portées, qui nous sont portées et qui s'inscrivent dans le droit fil de la tentative de nous réduire en touchant au cœur même de notre idéal. Une telle situation exige, à mon avis, et ce sera ma première remarque, une grande rigueur et une grande fermeté lorsque nous nous exprimons publiquement sur ces questions. Chaque fois que nous ne tenons pas tous les bouts de notre analyse, nous ouvrons le champ à l'adversaire et nous contribuons objectivement à l'entreprise d'intoxication contre le socialisme, contre nous-mêmes.
Est-ce qu'il y a des résistances au sein du parti sur cette volonté d'ouvrir les archives ?
Pas à ma connaissance, non. Quand je prononce mon intervention en 2003 pour annoncer cette remise des archives, c'est plutôt quelque chose, je dirais, qui est marqué comme positif dans l'évolution du Parti communiste. J'avais une discussion avec une responsable d'une section, là, il y a 3 jours, qui disait, les archives, moi, je sais pas s'il faut tout, s'il faut vraiment que je donne tout. Je lui ai dit, si on donne les archives, faut tout donner, parce que sinon, l'historien, il va pas trouver matière à travailler et à écrire sur l'histoire du Parti communiste français. Mais il y a encore cette crainte que ce soit utilisé au détriment de notre combat. Oui, parce qu'à partir du moment où on donne les archives, on va aussi permettre à des historiens, à des chercheurs, de se pencher sur, par exemple, le positionnement du Parti communiste par rapport à l'Union soviétique, sur le positionnement du Parti communiste par rapport à l'RDA, etc., etc., comment le Parti communiste, par rapport au maoïsme, s'est positionné. Bon, c'est aussi un peu toutes ces questions qui ne sont pas toujours faciles à travailler, mais ça peut être aussi des questions plus récentes, plus... qu'est-ce qui s'est passé en 81 ? Pourquoi on prend le choix, la décision de participer au gouvernement ? C'était quand même pas un choix anodin. Et puis, pourquoi, 3 ans après, moi je m'en rappelle, on est convoqué pour la tenue d'un comité central. On s'assoit même pas.
Tout a commencé hier soir à 20h15 à l'hôtel Matignon. Georges Marchais, entouré d'André Lajoigny et de Charles Fisherman, quitte le bureau du Premier ministre après
19 juillet 1984.
23h, place du colonel Fabien, les 22 membres du bureau politique, le gouvernement du parti, après 2h30 de débat, pénètrent dans la grande salle du comité central, le parlement du PC, 148 participants. Peu d'informations, mais les bruits les plus divers circulent. La rencontre Fabius Marchais se serait très mal passée. Les travaux reprennent, mais déjà l'information devient plus précise, la rupture est dans l'air. 9h, elle devient officielle. Les communistes quittent le gouvernement, mais soutiendront son action d'estime.
Mais ce serait intéressant de savoir exactement comment s'est prise cette décision. J'espère que les chercheurs donneront à voir.
Bien, nous, après ce rapport très court...
29 octobre 1984.
On ouvre la discussion générale, je prends les inscriptions. Pierre Juquin, d'abord.
Chers camarades, comme chaque communiste, je me pose bien sûr des questions. Je les ai énoncées pour la plupart au bureau politique, le 19 juin 1984 notamment. Je crois utile de les poser au comité central au jour où celui-ci discute du projet de document pour notre prochain congrès. Je vous demanderai même la permission d'être un peu long.
Pour poursuivre après, dans les années 70 et 80, ces moments de crise et de débat interne évoluent encore. On voit notamment dans les années 80, mais là, le contexte politique a profondément changé. Le Parti communiste est confronté à une crise postérieure, donc à la participation au gouvernement de 81, puis au départ du gouvernement et à partir de cette période de 1984, de la crise des régimes communistes en Europe de l'Est, où là commence à apparaître en interne des courants, ce qui normalement n'est pas dans la culture politique du Parti communiste français et d'ailleurs d'autres partis communistes également. Des courants internes apparaissent et on peut avoir une expression d'autres courants à l'intérieur du parti, même si elles vont en général aboutir à des exclusions. Et je pense notamment au cas de Pierre Juquin ou ensuite de Charles Fitterman, qui l'un comme l'autre tente de proposer une autre ligne politique ou en tout cas de s'opposer à la ligne politique majoritaire et qui ont la possibilité de s'exprimer au sein du comité central et ont d'ailleurs un certain nombre de soutiens qui peuvent également s'exprimer. Reste néanmoins qu'on sent une forme d'unanimité contre et on a toujours ce processus de ensuite des interventions qui vont se succéder pour dénoncer et critiquer ces choix-là, mais néanmoins on voit déjà que les conflits politiques se règlent et s'expriment d'une façon différente que celle des années 50 ou 60, c'est très clair.
Le score de 11,2%.
ramène notre parti à son influence du milieu des années 20. Par rapport aux électeurs inscrits, il connaît même en 1984 son plus bas niveau, 6,2%, ce qu'il faut certes apprécier en tenant compte des particularités de la dernière élection européenne. 4 ouvriers au sens strict, INSEE, sur 5 ne votent pas communiste. 9 employés et cadres moyens sur 10. Nous situer aujourd'hui à ce niveau, après avoir atteint 28,6% en 1946, n'est-ce pas beaucoup plus grave qu'à nos débuts, il y a 60 ans? Notre conduite politique des 10 dernières années n'a-t-elle pas laissé aux Français une impression de zigzag, de balancement pragmatique de droite et de gauche? L'autocritique communiste n'a rien de commun avec la confession catholique. Il s'agit bien sûr de reconnaître ses erreurs, mais surtout d'en découvrir les causes. La pratique est le critère de la vérité. Pour nous, marxistes, l'erreur est un signal d'alarme qui indique des failles dans la pensée, l'action, l'organisation. Quand elle dure près d'un quart de siècle, on ne peut écarter a priori l'hypothèse que ces failles sont profondes. Les erreurs de la direction engagent la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous dirigeants. Mais ces erreurs ne se réduisent sans doute pas à une somme de défaillances individuelles. Il est donc impératif que tous les communistes utilisent leur intelligence et leur expérience pour débusquer du mieux possible les causes de nos erreurs. Rien à voir avec des procès ou des règlements de compte minables.
C'est une intervention de Pierre Jukin pour contredire, en tout cas critiquer très directement la ligne politique du parti et pour mettre en garde face à la perte d'identité communiste et surtout pour ouvrir vers lui ce qui estime être des horizons importants en termes politiques. Il parle d'écologie, il parle de féminisme, il parle de rapport du parti à la société d'une façon qui m'a surpris et surtout qui montre qu'à cette époque, il y a des vrais débats, des vrais échanges. Bon, ça va lui coûter sa place au parti, mais j'ai vraiment gardé un souvenir très très fort de cette intervention qui se fait dans un silence glacial.
Bien, alors, vous connaissez l'ordre du jour, convocation et préparation du 26e congrès, proposition du candidat communiste à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'ordre du jour? Il n'y en a pas. On considère que l'ordre du jour est adopté. Pas d'opposition? Il n'y en a pas. Dans l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.
1987.
Et je donne la parole au rapporteur Georges Marchais.
Nous devons tous, nous a dit Mikhaïl Gorbatchev, renouveler notre façon de penser. Depuis le secrétaire général du parti jusqu'au communiste de base, car nous sommes tous les enfants de notre époque. Par exemple, quand nous discutons au bureau politique de nos objectifs, nous sommes tous résolus à aller de l'avant, mais quand nous passons à l'application, souvent les vieilles méthodes ressortent des placards et ça sent la naphtaline. Bref, la bataille est vive, mais les dirigeants soviétiques sont résolus à la mener. Leur volonté politique de rendre irréversible le nouveau cours, confirmée à l'occasion du comité central de janvier 1987 et au congrès du Komsomol le mois dernier, nous a été réaffirmée. À notre avis, cette conviction et les transformations que je viens d'évoquer ne sont en rien volontaristes. D'abord, parce qu'ils répondent aux nécessités. L'Union soviétique a un besoin impérieux de ces changements qui se sont déjà beaucoup trop fait attendre. En somme, tout se passe comme si le socialisme tendait désormais à se construire sur ses propres bases en s'émancipant d'un lourd héritage que les conditions particulières de son édification en Union soviétique lui ont légué. Nous avons de ce point de vue été frappés par le réalisme avec lequel les dirigeants soviétiques abordent cette question. Leur volonté n'est pas de s'ériger en tribunal de l'histoire, mais de comprendre précisément comment et pourquoi cette histoire s'est faite.
Moi, j'ai souvenir d'un congrès où Georges Marchais a commencé le matin.
Marie-Georges Buffet.
On a fait une interruption pour déjeuner et il a repris son discours en début d'après-midi. Alors, c'était des discours aussi extrêmement complets, c'est-à-dire que vous n'aviez pas un discours introductif sans qu'il y ait la partie, par exemple, situation internationale. C'était très bien d'ailleurs. Bon, ça prenait du temps.
Le ton est tout de même un peu plus souple que dans les années précédentes. Les interruptions sont plus seulement le fait du secrétaire général, par exemple.
Mais je pense que le parti, qu'on le veuille ou non, il n'est pas en dehors de la société. Les individus qu'il compose, ils vivent dans une société aussi. Bon. Et donc, je pense que les aspirations à pouvoir avoir un langage un peu plus direct, de pouvoir plus débattre vraiment, etc., etc., sont montées dans le parti comme elles montaient dans la société. Voilà, je pense que aujourd'hui, je ne sais pas si les copains, les copines accepteraient d'écouter un discours qui commence le matin et qui reprend l'après-midi. Il dirait bon, on laisse le temps au débat quand même, hein. Voilà. Donc petit à petit, y compris la façon de vivre à l'intérieur du Parti communiste, s'est complètement modifié. Entre ce que était le rapport au secrétaire de section ou au secrétaire fédéral dans les années 90, et ce qu'il est aujourd'hui, c'est un pote parmi d'autres, c'est une copine parmi d'autres, et puis bon, on lui a confié une responsabilité, mais voilà, je veux dire, la société a bougé, le parti a bougé automatiquement.
Pour être le porte-drapeau de cette immense campagne de tout le parti,
Georges Marchais, 18 mai 1987.
La France nationale désignera comme candidat communiste à cette élection, devra donc posséder des qualités particulières. Trois critères nous semblent être essentiels et indiscutables. Le premier, l'accord avec notre politique. Cela va de soi. Pour donner une juste image de notre parti, il nous faut un homme ou une femme dont la pensée et l'action collent à notre politique. Le second, la capacité de faire apprécier et soutenir cette politique. Le troisième, l'expérience de direction et d'animation de luttes importantes, notamment électorales. Tenant compte de ces trois critères, le bureau politique unanime propose que le camarade le plus apte à populariser dans cette campagne notre politique novatrice et rassembleuse est André Lajoigny. Il n'est pas utile devant le comité central d'énumérer les qualités qui sont celles d'André, secrétaire du comité central.
Vous arrivez au comité central du parti en 1987. C'est une période particulière de l'histoire du parti. Quels souvenirs vous gardez de cette période et en particulier de l'élection présidentielle de 1988 ?
C'est une campagne difficile. Et le résultat, bien évidemment, c'est un choc pour, je crois, l'ensemble des militantes et des militants. Alors on va ensuite d'élection présidentielle, élection présidentielle s'affaiblir, et je suis bien payé pour le savoir. Mais là, c'est la première fois qu'on a un tel résultat. Voilà. Et donc, bien sûr, beaucoup d'entre nous vont faire le lien avec ce qui se passe, avec le fait que pour beaucoup d'hommes et de femmes, les communistes français, c'est quand même ce qui se passe aussi en URSS, etc., etc. Et donc après, il va y avoir sur plusieurs années, ça va durer des années, toute une série de recherches de comment refonder, hein, une pensée communiste. Alors il y aura les refondateurs avec cette contestation interne au parti. Il y aura l'idée assez forte qu'a eu Georges Marchais du socialisme à la française, c'est-à-dire essayer de donner à voir à nos concitoyens et concitoyennes que le changement que nous voulions était un changement qui s'appuyait sur la réalité de notre pays, sur les valeurs de notre pays, sur notre démocratie, sur notre république. C'était une belle idée, le socialisme à la française. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la mutation, portée par Robert Hult, qui était aussi une recherche de se détacher de ce qu'avait été le passé du communisme et du socialisme réel. Ensuite, moi, j'ai tenté de créer le Front de Gauche, c'est-à-dire, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment d'aller vers une fédération des forces de gauche. Il y a eu ces différentes tentatives, je passe jusqu'au nouveau Front populaire.
Notre candidat obtient 2,053,764 voix et 6,8%.
Trois jours après le premier tour des élections présidentielles.
Un électeur communiste de 1986 sur 4 n'a pas voté pour notre candidat. Dimanche dernier, Chirac, Barre et Le Pen ont rassemblé ensemble 50,8% des suffrages. L'élection de Chirac sera donc difficile à empêcher. Et pour qu'il y ait une chance d'y parvenir, tout va dépendre de l'attitude au second tour des 2 millions d'électrices et d'électeurs qui ont voté communiste au premier. S'ils votent pour François Mitterrand, Chirac peut être battu. S'ils s'abstiennent, Chirac est élu à coup sûr. Le résultat final est pour une part déterminante entre leurs mains.
Le débat est très vif pendant ces réunions, mais pour autant, on aurait tort d'en avoir une image d'une pagaille. En réalité, c'est des interventions qui sont quand même très organisées.
Ah, mais ça, c'est une belle école du Parti communiste français, c'est-à-dire de travailler, de placer ses idées, de développer quelque chose. Voilà, on lève pas le doigt pour sortir un truc. Et puis c'est le respect aussi de l'organisation. Bon, moi c'est une anecdote, mais moi j'ai mis un an et demi avant d'oser intervenir lorsque j'ai été élue au comité central, parce que je me sentais pas apte à faire une intervention face à des Paul Laurent, des Georges Marchais, des Charles Fitterman et d'autres, des Français de Lazare et d'autres. Donc je restais tranquillement sur mon à ma place sans me faire entendre, ce qui permettait qu'on recherche cette qualité d'intervention. C'était aussi que le parti lui-même était un grand lieu d'éducation populaire.
Non, mais pas spécialement par rapport à l'intervention, mais en général.
Que sur l'intervention, si tu permets.
Alors vas-y.
T'en prie.
Non.
Vas-y.
Deux mots, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais je crois que quand le camarade dit il faut débattre, etc., il faut répondre quelque chose, c'est tout, pas plus. Moi, j'ai besoin de dire quelques mots seulement, tranquillement. J'interviens.
On aura besoin de dire quelques mots après toi.
Comment ?
On aura besoin de dire quelques mots après toi.
Je n'en sais rien.
On n'est pas d'accord avec toi.
Mais bien entendu, c'est la règle ici. Bien entendu, c'est évident. Je pense que si tu n'es pas d'accord avec moi, tout le monde te demandera de le dire. Et moi le premier, ici.
Je regrette que tu n'appliques pas cette règle, parce que sans ça, je te demanderai la parole chaque fois que tu l'attends.
Cher camarade, tu personnalises un peu trop. Mais je crois que nous avons l'habitude dans le parti de petits débats éclatés où tout le monde intervient, c'est tout.
Voilà, Paul.
Je crois que tu personnalises un peu trop.
Paul, plus sur le débat, sur
ce... Je ne vois pas, en tout cas, dans ce que j'ai dit. Mais vraiment, les camarades jugeront.
Bon. Moi, j'ai énormément appris en étant militante. Ensuite, en ayant des premiers mandats d'élu, j'ai été maire adjointe. Alors, à l'époque, bien sûr, étant une femme, j'étais maire adjointe aux affaires sociales. C'est bien connu. Dans une mairie à majorité socialiste. Puis ensuite, j'étais conseillère municipale. Puis ensuite, on m'a demandé d'être députée. C'était... Mais entre-temps... Eh bien, il y avait l'école, parce qu'on écoutait les rapports, et puis il y avait les écoles du parti. On faisait des écoles d'une semaine, on faisait des écoles d'un mois. Par exemple, moi, l'économie, quand je suis arrivé, moi, j'avais fait quelques études d'histoire et géographie, l'économie, à l'école, à Draveil, puisqu'on avait un centre, l'école, c'était à Draveil, on apprenait l'économie. Donc moi, j'ai été... J'ai participé à ces écoles et puis après, j'ai fait moi-même des cours dans ces écoles. On avait fait, quand le parti a pris le chemin du féminisme, puisque pendant toute une période, le parti était le parti des droits des travailleuses. ces droits des travailleuses étant automatiquement réglés par l'arrivée du socialisme. Et puis, grâce à la commission des droits des femmes dans le parti, on leur a dit non, socialisme ou pas, la domination patriarcale, elle sera toujours là.
C'est étonnant que dans mes souvenirs, le passage au féminisme, ce soit une césure aussi claire. Que ça n'a pas été un glissement ou un...
Ah non, du tout. Du tout, du tout. Ça a été une décision qui a été prise à un moment. Ben oui, parce que c'était une rupture avec l'idée que le socialisme allait tout régler. Or, il ne changeait pas les mentalités, quoi qu'on pense. Et donc le parti, grâce aussi à Madeleine Vincent, on a fait des stages sur le féminisme, sur les fondements du combat féministe, etc. Donc tout ça nous aidait, parce qu'on apprenait. J'aurais bien aimé retrouver ce qui se disait, mais ça, je ne sais pas si ça n'a pas dû être enregistré à la direction, quand justement la commission droits des femmes, on est parti sur le féminisme. J'aurais bien voulu savoir ce qui s'est passé à cette époque-là, mais je ne sais pas.
Ça me permettra de commencer.
Georges Marchais, 26 avril 1989.
Bien. Prenez place, camarades.
Et la perestroïka, nous dit-on. Il est vrai que des changements de la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique ont tellement amélioré l'image de celle-ci qu'il devient à la mode de s'en réclamer même parmi les plus anti-soviétiques et anti-communistes de nos hommes politiques. C'est ainsi qu'on a pu lire que le secrétaire général du RPR, Alain Juppé, faisait profession, je cite, de Chiraco-Gorbatchevitch. De son côté, Pierre Mauroy, dans l'article que j'ai évoqué tout à l'heure, saluait, je cite également, le révisionnisme actuellement en œuvre en Union soviétique. Bien sûr, dans cette mauvaise pièce qu'on met en scène, le rôle des méchants, de ceux qui s'opposeraient à la perestroïka parce qu'ils s'en effraieraient, revient comme d'habitude au Parti communiste français. Soyons sérieux, car s'il est un parti qui en France se félicite des transformations en cours en Union soviétique, s'il est un parti qui soutient sans arrière-pensée la perestroïka, c'est bien le Parti communiste. Non pas parce que Moscou redeviendrait notre guide ou notre modèle. Cela, je l'ai dit, c'est un passé définitivement enterré. Mais parce que, luttant pour le socialisme en France, tout ce qui touche au socialisme, et notamment au socialisme du plus grand pays du monde, l'Union soviétique, nous concerne. Les crimes monstrueux qui marquèrent son histoire, puis les graves défauts qui retardèrent son accomplissement nous ont beaucoup coûté. Ces progrès ne peuvent que nous réjouir. Et parce que ce qui se passe en Union soviétique répond à nos voeux, parce que nous y retrouvons des traits fondamentaux de notre propre conception du socialisme, oui, nous soutenons totalement la perestroïka.
Le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989 et marque la fin d'une époque. Le comité central du Parti communiste ne se réunit que le 13 décembre pour une réunion qui durera 3 jours et se caractérise par un certain flottement concernant l'attitude à adopter face aux récents événements internationaux, mais aussi face à un anticommunisme de plus en plus prégnant.
Je vais donner la parole à Paul Laurent et, si vous le permettez, lui permettre de rester assis. Il est très enroué, j'allais dire parfaitement. Pardon. Il est très enroué et a besoin d'être proche du micro. On l'excusera et on tendra bien l'oreille.
13 décembre 1989.
Est-ce que vous m'entendez ? Pour avancer dans cette double direction, le rôle de notre parti, de ses militants, de notre politique et de la capacité d'initiative qu'elle implique sont des éléments décisifs. Nous ne sommes pas seuls à le penser. Ceux qui veulent que dure la politique actuelle en sont au moins aussi persuadés que nous. Il est impossible d'expliquer autrement l'acharnement anticommuniste dont nous sommes l'objet. Le communisme est mort et le Parti communiste français, avec Georges Marchais à sa tête, est le dernier repère de ce cadavre en voie de décomposition. Voilà à peu près le schéma de la campagne que nous subissons jour après jour et encore ce matin sur l'ensemble des médias. Force est bien de constater que ce couplet méprisant, souvent aux limites de l'injure, est constamment présent et constamment amplifié par les médias, qu'il l'est aussi dans chacune des interventions des dirigeants du Parti socialiste, en particulier celle de leur premier secrétaire.
L'anticommunisme, on l'a connu à d'autres périodes de l'histoire du parti, hein. c'est pas quelque chose de...
Marie-Georges Buffet.
On ne le vivait pas comme quelque chose qui nous touchait au sens de blessure, etc. C'était, on nous attaque, mais justement parce que nous, on veut que ça bouge, que ça change, etc. Donc il faut continuer à mener ce combat pour changer la société, etc. etc. Donc on va tenir.
Même dans les références doctrinales et dans la référence au modèle marxiste-léniniste, on a l'impression que ça change un peu quand même et qu'il y a un courant réformateur qui commence à prendre de l'ampleur, tournant des années 90.
Oui, mais bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure des refondateurs et c'était pas n'importe qui. C'était des hommes et des femmes qui comptaient dans l'histoire et la vie du parti, qui étaient des dirigeantes et des dirigeants, c'était des hommes et des femmes respectés. Donc les propos qu'ils ont tenus, les propositions qu'ils ont faites, qu'on aurait peut-être dû écouter à l'époque, on aurait perdu beaucoup moins de temps, mais qui ont été rejetées par la majorité à cette époque, faisaient débattre. Y compris, faut pas penser que le débat se réduisait au comité, aux réunions du comité central ou du comité national. Le débat avait lieu aussi dans les réunions, dans les sections, c'est-à-dire dans l'organisation communale du parti. Ces débats étaient reproduits. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient d'accord avec ce que proposaient les refondateurs et qui développaient dans les sections et tout. Donc ce débat, il avait lieu un peu dans toutes les réunions du parti. Puis on a eu la direction à écarter ceux et celles qui portaient cette idée de refondation.
Et troisième question, le Parti Socialiste et nous, la social-démocratie et nous.
Philippe Herzog, député européen, là aussi, 14 décembre 1989.
Dans cette intervention, l'idée était faut gommer. Alors personne, enfin en tout cas, il n'est pas question de mettre des étiquettes. Mais il est très facile de lever les interrogations en répondant à la question comment positionner les communistes par rapport aux sociaux-démocrates. Très facile de lever les équivoques. Il faut répondre aux questions et le débat va avancer. C'est un problème extraordinaire. Il y a des partis communistes qui deviennent partis socialistes. Il y a une poussée des idées social-démocrates à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Et l'on ne voudrait pas essayer de clarifier Ah ben si, ben alors apportons. Et j'y viens dans un instant. Mais ne disons pas, faut gommer. Faut peut-être gommer, mais après avoir expliqué pourquoi il faudrait gommer. Ces questions d'ambiguïté, je parle d'ambiguïté, ont été posées. Il vaudrait mieux avancer dans la réflexion sur ces questions plutôt que de dire il n'y a pas de débat pour des raisons de procédure ou de procédé, je crois. Nous avons tous un très grand souci de notre identité communiste.
C'est vrai qu'il y a un courant réformateur, souvent qualifié de sociodémocrate, et on a l'impression que ça...
L'insulte. Non, c'était absolument pas des hommes et des femmes qui remettaient en cause l'idée même du communisme. Au contraire, je pense qu'à travers leur discours, ils avaient l'envie qu'on revisite ce que pourrait être le communisme dans un pays comme le nôtre. Je pense que c'était plutôt ça leur discours. Je vous le dis avec d'autant plus de modestie qu'à l'époque j'étais dans la majorité, mais je pense qu'ils avaient peut-être, avant d'autres, pensé qu'il fallait revisiter complètement ce qu'était cette idée du communisme pour un pays comme le nôtre.
Ce projet ne fait pas double emploi et, à plus forte raison, ne se substitue pas au programme.
Anicet Le Pors,
c'est le programme,
conseiller général des Hauts-de-Seine,
notre base.
14 décembre 1989.
Mais on a indiqué les circonstances qui nous avaient conduit à faire cette élaboration. Nous pensons que ça peut être utile pour les luttes et éclairer nos perspectives.
Ce qui est assez étonnant quand on écoute les archives, notamment celles du comité central de la mi-décembre 89, c'est que la chute du mur n'est pas évoquée avant le troisième jour de réunion et de façon assez, assez pudique ou assez lointaine. Est-ce qu'on pourrait parler d'une ambiguïté de la ligne du parti par rapport au cours de ces événements internationaux ?
Oui, il devait y avoir à la direction une grande difficulté à se positionner par rapport à ce qu'étaient nos anciens alliés. Et je pense que parmi les communistes, c'était un choc terrible et on ne savait pas très bien comment prendre l'affaire.
Donc c'est après personne humaine et du genre humain, on poursuivrait. Les progrès des connaissances, des sciences et des techniques, le mouvement des peuples, appelle le développement intégral de chaque être humain et sa participation plénière à la gestion de tous les aspects de son existence. Point. La société moderne a besoin d'autogestion. C'est sur les exigences de justice, de liberté et de paix, de démocratisation dans tous les domaines et sur les luttes qui les portent que le Parti communiste français fonde sa conception du socialisme à la française.
Honnêtement, je pense que... moi, j'essaie de me rappeler, je me dis... À la fois, je me rappelle que bon, c'était un choc terrible, et d'un autre côté, on continuait à agir, à militer, comme si il ne s'était rien passé.
C'est assez étonnant quand on entend les archives. Les deux premiers jours sont consacrés aux résultats des cantonales partielles. Et on parle de la chute du mur, 8 heures de réunion après.
Oui, mais me rappelant mon attitude personnelle, je ne suis pas étonnée parce que je pense que, un peu, vous savez, quand on se met les œillères en se disant peut-être que si je passe, je vais trouver une issue à la sortie. Mais voilà, je crois que c'était l'attitude, y compris de la direction.
Il me reste à vous souhaiter bon appétit avant la reprise de la séance de cet après-midi.
Comme je partage totalement...
Attends, 30 secondes, Daniel. Tout le monde s'assoit et Daniel tout seul.
Daniel Brunel, premier secrétaire de la Fédération de Seine-et-Marne, 15 décembre 1989.
Dans le quotidien de Paris, juste du lundi qui suivait l'ouverture du mur, il y a l'éditorialiste qui écrivait ceci. De nouvelles habitudes sont à prendre, un langage nouveau reste à inventer et il va falloir adopter de nouveaux comportements. Qu'adviendra-t-il des alliances militaires forgées dans la confrontation des blocs? Quelle réalité cerne encore le concept d'Europe des 12 face à celui de maison commune ou de grande Europe? Que restera-t-il demain de l'approche française de puissance mondiale essentiellement fondée sur la puissance de l'arme nucléaire? C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le sommet de Malte. Le sommet a ouvert des perspectives pour 90, et en cela 90 devrait être une année cruciale, une année décisive, avec une nouvelle avancée dans le désarmement, notamment avec un accord de réduction de 50% des arsenaux stratégiques américains. De ce point de vue, je crois qu'il faut bien voir ce que ça représenterait comme nouvelle et extraordinaire avancée.
Jacques, et ensuite Jean-Claude Guessot.
Jacques Ralite, maire d'Aubervilliers, même session.
Ici
trouve que dans la dernière période, dans le cadre de mes responsabilités aux États généraux de la culture, j'ai été amené à me déplacer dans un nombre assez intéressant de lieux dans le monde. Je nommerai Moscou, Bogota, Francfort, Lausanne, Bruxelles et Berlin-Est. 3 jours, c'est peu, mais c'est tellement fort. Et voyez-vous, même si c'est là-bas et que je suis d'ici, je ressens en tant que communiste une profonde solidarité avec ce pays et ces communistes que j'avais visité une dizaine de fois. Permettez-moi d'être un peu reporter, et même si c'est un peu long, il y a comme ça que j'arrive à transmettre ce que j'ai ressenti. Dimanche 3, matinée, nous cherchons le mur. À l'hôpital, j'interroge le gardien, nous traversons le long hôpital et voilà le mur troué. Un cortège d'hommes et de femmes qui font la queue, des couples jeunes avec enfants. Ils vont à l'ouest, voir, et éventuellement acheter. Je dis éventuellement parce que pour les produits de première nécessité, la RDA avait, et à des prix subventionnés, donc très bas. Non, la démarche est d'aller voir, retrouver, amis, famille, séparés, goûter une liberté enfin possible. Dimanche 3, 14h, devant l'hôtel, une manifestation passe. Des calicots, SED dehors. SED, excusez-moi, dissolution. Schalk, ça, je n'ai pas du tout l'émotion de ce point de vue. Schalk, prévaricateur, arrestation, etc., etc. Dimanche 3, 15h, chez Stéphane Hermelim, grand écrivain allemand, brigade internationale, armée française en 40, résistance, fondation de la RDA. C'est un peu bête, enfin merde. Il raconte, sa femme l'interrompant, venant nous dire ce que la télé donne. Manifestation dans le CC, démission du CC, démission du BP, arrestation de Mittag et de Fisch, exclusion de Necker. Hermelim est inquiet. À Leipzig, on a commencé à substituer Wirsind das Volk, nous sommes le peuple, par Wirsind ein Volk, nous sommes un peuple. Nous étions un parti où il y avait trop de carriéristes, c'est lui qui parle, hein. J'étais ami de Necker, je ne me doutais pas qu'il avait manqué à un tel degré à ses responsabilités et à ses devoirs. Tout de même, je lui ai écrit. Nous avons de fortes racines révolutionnaires, comme les Tchèques. Les intellectuels sont pour un nouveau socialisme et contre la réunification. La SED se laisse prendre de vitesse par le peuple. Elle est affaiblie. Il n'y a pas d'autre force de substitution, sauf les gens politiques d'église, si la CED et la SED lâche. Il n'y a pas d'éléments stabilisateurs. Le pays sous l'emprise des émotions, il y a un danger de colonisation par la RFA et d'homogénéisation allemande sur base de la RFA. Ce sont des citations. J'ai pris beaucoup de notes. Dimanche 3 décembre, soirée à l'Opéra, les Noces de Figaro, c'est archi plein, mais toutes les conversations à l'entracte portent sur les événements. Lundi 4, toute la matinée, dans un atelier 10 peintres et des plus grands critiques allemands. Ils nous accueillent, ils nous racontent leur rôle dans les journées, leur engagement, leur soif d'être connus. En fait, leur travail ne quittait presque jamais leur atelier. C'est comme s'ils n'avaient pas de nom. En retard sur le repérage et la formulation des tendances lourdes marquant l'évolution des sociétés socialistes depuis un certain nombre d'années, je pense que nous avons eu le mérite de la clairvoyance et de la détermination pour faire valoir nos positions.
Raymond Jeanne, le même jour.
Lorsque je parle de tendances lourdes, j'entends aussi bien celles qui recouvrent les acquis du socialisme que celles qui recouvraient les verrous à faire sauter pour le développement de cette société. Évidemment, et je partage l'appréciation de Maxime ce matin, nous n'avions pas tout repéré, tout prévu. Comment éclateraient par exemple les événements que ces pays viennent de vivre? Mais rappelons-nous mai 68 chez nous, bien prétentieux, celui qui prétendrait aujourd'hui que nous étions en capacité de prévoir à quel moment et sous quelle forme se développerait un mouvement social d'une telle ampleur. Pour l'essentiel, je considère que notre comportement a été lucide, solidaire et responsable.
Et c'est cela que l'adversaire nous conteste pour continuer à faire accepter le capitalisme. Je partage tout à fait l'opinion que nous ne devons céder aucun pouce du terrain sur la défense des acquis du socialisme.
Une expression qui fait débat à ce moment-là, c'est celle de bilan globalement positif du socialisme. C'est quelque chose qui alimente les débats pendant ce comité central de fin 89.
Ça a été la pierre centrale de la préparation du congrès. Est-ce que les communistes allaient voter sur cette idée d'un bilan globalement positif, bon, qui est toujours à discuter, etc. Mais en fait, on n'en discutait même plus, puisqu'il fallait que ça passe. Il fallait que cette phrase, elle soit dans le congrès. Et donc, c'était vraiment une sorte de... Oui, petit à petit, c'est créer un rapport de force pour que cette phrase soit adoptée telle qu'elle dans le texte du congrès et fasse référence en disant ces pays, le socialisme réel, ils ont quand même fait des choses positives et donc on ne peut pas complètement rayer d'un trait tout ce bilan. Mais ça a été vraiment la bataille du congrès. Et je me rappelle, nous, on était dans une section très... Hein, dans la ligne. Et pendant la conférence fédérale, il y avait une dirigeante qui était une dirigeante, très grande dirigeante. Et elle passait derrière nous, puis elle nous disait « Hein, les copains là, les copines, vous tenez bon, hein ? Vous tenez bon, hein, sur le bilan globalement positif ?» Alors on disait « Oui, 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 t'inquiète pas. »
Autour de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Mais quand j'entends parler de bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander leur avis.
12 juin 1991. Avec 57% des suffrages exprimés, Boris Yeltsin remporte les élections et accède à la présidence de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Cette victoire démocratique marque une rupture fondamentale et affaiblit définitivement le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Deux mois seulement après cette élection, Gorbatchev essuie une tentative de coup d'État perpétrée par des conservateurs hostiles à ses réformes, jugés trop éloignés d'un communisme orthodoxe. Si le putsch se solde par un échec, il achève de décrédibiliser le parti communiste soviétique et permet à Yeltsin d'incarner le visage de la démocratie et du réformisme. Les unes après les autres, les républiques du RSS proclament leur indépendance. Le 8 décembre, la signature des accords de Minsk entérine la fin de l'Union soviétique. Mikhail Gorbatchev démissionne le jour de Noël.
Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui.
La parole est à Gaston Pissonnier qui sera suivi par Jean-Louis Mons.
4 septembre 1991.
Sur le bouleversement en URSS, le coup d'État, ses conséquences, la disparition du Parti communiste, constituent les moments les plus difficiles de l'histoire du communisme. En tout cas, je le pense profondément. Et nous n'y sommes pour rien, parce qu'il faut être clair là-dessus. Hein. Parce qu'il y a parfois des sous-entendus qui passe mal. Et j'ai beaucoup écouté ce qui était dit, et ce qu'a dit tout à l'heure aussi Michel Dufour. Les cadres, les militants du parti se battent. Ils sont battus au moment de la Roumanie, mais ils se battent là, dans un moment encore plus difficile. Ils sont magnifiques, extraordinaires, par leur détermination. Et ils savent quoi faire et comment le faire, et ils le font. Je suis tenté de dire à Philippe, j'en avais dit un petit mot hier déjà, mais je le redis là, comment Philippe peux-tu dire que les dirigeants du parti sont hors du coup? Ils n'ont pas la tête au plafond, ils ont les pieds par terre, c'est-à-dire ils sont aux prises avec les réalités sociales et politiques. Et je lis dans l'UMA tous les jours, les membres du bureau politique sont aux entreprises, font le porte-à-porte, m'ont parlé, écoute. ces militants, ces cadres, ces, qui sont engagés, qui font tout cela, ça vient de quoi? Ça vient bien du parti, ça vient bien de sa politique, et ça vient bien de sa direction. Alors, Philippe, tu vois, peut-être, il faut réfléchir un peu, et être moins absolu, hein, moins tranché dans certaines affirmations.
René Andrieux, et ensuite Daniel Desmarches.
Le même jour.
Je me bornerai à des remarques brèves et non exhaustives sur quelques aspects importants de la situation. Une situation dont je souligne sans volonté d'être original la complexité et l'exceptionnelle gravité. Je voudrais dire tout d'abord que la discussion au comité central, aussi vive soit-elle, me paraît normale, légitime. C'est un premier point qui souligne que le parti a bien changé et dans le bon sens. Il fut un temps où la mise en cause de la direction du parti aurait été considérée comme une trahison pure et simple de nos idéaux communs. Hier, on a pu entendre au comité central une discussion passionnée, et bien que je n'éprouve pas un plaisir pervers à voir des camarades s'affronter durement, je préfère encore cette situation à l'hypocrisie qui consisterait à accepter du bout des lèvres la ligne officielle parce qu'elle est venue d'en haut. La déclaration du bureau politique du 19 août, c'est vrai qu'elle aurait gagné à être plus nette. Mais enfin, dès le début, la direction du parti a exprimé son désaccord et déclaré que les conditions d'éviction du président soviétique étaient inacceptables. Personne ne peut penser, en tout cas moi je ne pense pas, que des dirigeants communistes français auraient pu tabler sur la réussite d'un coup d'État et s'en réjouir. Je suis persuadé que dans ces conditions, que le comité central aurait été à peu près unanime à condamner une telle attitude.
Alors cet ensemble de documents a été classé par l'État comme archive présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public. C'est une première dans le cas d'un parti politique français. Qu'est-ce que ça représente, cette qualification?
Je pense que ça donne à voir de la longue histoire de ce parti et surtout de son rôle, parce que
Marie-Georges Buffet,
il a joué un rôle à la fois, bien sûr, dans la résistance, il faut le rappeler, même si c'est très connu, mais il a joué aussi un rôle dans l'éducation populaire pour permettre aux citoyens et aux citoyennes d'avoir accès aux défis politiques, d'avoir accès à des connaissances économiques et tout. Moi, je me rappelle à une époque dans la ville où j'étais, je faisais une tournée de 37 humanités dimanche, et dont j'allais cogner à la porte de 37 familles le dimanche matin. Et on discutait toujours, on avait toujours un échange sur l'actualité, sur ce qui se passait, ou des échanges plus personnels. Et donc, il y avait ce rapport des citoyens et des citoyennes à la politique. Et cette éducation populaire, je trouve qu'elle nous manque beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc c'était aussi ça, la volonté dans l'ouverture des archives, c'était de mieux porter à la connaissance ce qui a été l'engagement, j'ai envie de dire, des militantes et des militants communistes.
Frédéric Genevet, vous avez été longtemps responsable des archives du PCF. Vous êtes d'autant plus conscient des défis techniques à venir.
Les premières archives qui ont été transférées aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis dans la deuxième moitié des années 90, avant qu'il y ait le classement par l'État, c'est justement les archives audiovisuelles, et notamment les enregistrements, parce qu'ils avaient peur pour la conservation des supports, ils n'avaient pas de machine pour lire les fils d'acier. Et c'est donc les personnels des archives départementales à la fin des années 90 qui sont allés dans une brocante récupérer une machine qui a permis le premier transfert, au début vers des cassettes, puis ensuite vers le numérique. Et on risque d'avoir le même problème avec des archives beaucoup plus modernes, qui sont les archives numériques. Les supports physiques se dégradent plus vite que le papier. Donc il faut organiser un transfert régulier d'un support vers un autre support plus récent. Et ça, vous imaginez bien que pour une organisation politique ou une organisation syndicale, il y a d'autres chats à fouetter que de s'occuper des archives. Et puis, il y a une inflation de l'utilisation du numérique. Au PCF, on ne s'écrit plus de lettres, on se transfère assez peu des notes, on s'envoie des WhatsApp, des textos. Et évidemment, ça, c'est encore plus fragile. Et puis, quand c'est conservé sur des serveurs, ça pose plein de problèmes de souveraineté, de maîtrise, de propriété des archives. Donc, on a eu un petit problème avec les fils sur les réunions sonores du comité central, mais on risque d'avoir des problèmes puissance 10 avec le numérique.
Zoé Grand-Mère, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces sources que vous-même, vous êtes en train de produire ?
Bah pour l'instant, moi, elles sont sur mon ordinateur et mon disque dur. Je pense que, par exemple, moi, dans ma thèse sur le secteur juif du Parti communiste français, je pouvais pas interroger de militants, en fait, de militantes, parce qu'ils étaient morts. Donc mon biais, moi, ça a été de passer par les enfants, leurs enfants, en fait, les enfants de militantes et militants. Et la grande question, effectivement, maintenant, c'est celle de l'archivage. Où je les dépose, ces sources ? En fonction de la thématique, je choisis quel centre d'archives, lequel va vouloir l'accepter. C'est du boulot, parce que, en fait, est-ce que je donne une clé USB ? Comment s'appelle ce fonds ? Est-ce que ce fonds, il s'appelle Zoé Grimbert ? Enfin, c'est vraiment des questions qui sont aujourd'hui au cœur de toutes les réflexions, en fait, des historiens et historiennes qui pratiquent l'histoire orale.
Et quel rapport vous avez à vos archives, à vous ?
Je lui ai donné tout ce que j'avais. Chaque fois qu'on me demande l'autorisation, je la donne. Puis voilà. Je n'ai gardé qu'une partie des archives du temps du ministère, des notes que je prenais, que j'ai gardées chez moi pour l'instant. Peut-être qu'un de ces jours, je les donnerai.
Bien. J'ai un seul camarade inscrit pour la discussion, c'est Jean-Louis Fournier. Nous n'ouvrirons la porte que lorsque nous aurons un nombre suffisant de camarades inscrits. Robert U. Catherine Margaté. Aidez-moi, les gars. Putain, c'est... Fournier. Ensuite, Gérard Streff.
Merci à Marie-Georges Buffet, à l'archiviste Aurélien Dur et aux historiens et historiennes Frédéric Genevet et Zoé Grimbert. Merci également à Aliette Ovine pour son soutien si précieux. Prise de son Martin Troadec, Julien Girard, Virginie Lorda et Stéphane Touvenant. Mixage Antoine Viossa. Archivina Christelle Rousseau. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. Les voix du PCF, archives sonores du communisme français. 4e partie. Un documentaire d'Anne Toscan-Viudès, réalisé par Anne Fleury.